Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Cet après-midi, Franck Ferrand va rouvrir pour nous l'un des dossiers les plus mystérieux de l'histoire de France. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Vous avez raison, il s'agit probablement même de la plus grande énigme de notre histoire. Certains diront du plus gros serpent de mer de la presse historique. Tant cette affaire, que l'on a cessé de vouloir considérer comme résolue, ressurgit inlassablement tous les 4 ou 5 ans, et ce depuis bientôt 2 siècles. Vous aurez compris qu'il s'agit de l'affaire Louis XVII, relancée par l'ADN, si j'en crois un article du Figaro.fr publié le 28 mars et largement repris depuis. L'homme qui est à l'origine de ces nouvelles révélations est avec moi dans ce studio. C'est Bruno Roy-Henry, auquel je vais donner la parole dans quelques minutes, évidemment.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à une question de Marie sur les origines de la guillotine.
Oui, à l'issue d'une émission consacrée au fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, tous deux guillotinés, ça passera difficilement pour un hasard, et pourtant c'en est un. Dieu qu'il est souvent difficile de discerner le fortuit de l'intentionnel.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ferrand.
Le dossier Louis XVII est tellement connu des amateurs d'histoire qu'on se demande toujours, au moment de le rouvrir, s'il est bien utile d'en réexpliquer toutes les bases. À la réflexion, je me suis dit que oui, c'était quand même nécessaire. D'abord parce qu'à notre époque, cela ne fait plus forcément partie des choses qu'on apprend. Et puis parce qu'il n'est jamais inutile, me semble-t-il, de rafraîchir la mémoire de ceux qui connaissent déjà cette affaire. Si l'on veut avoir une chance d'y voir plus clair, on peut dire que c'est nécessaire. Nécessaire de reprendre les choses à la base. Dans quelques dizaines de minutes, à l'issue de cette émission, il faut que nous ayons tous à peu près les mêmes références. Alors, quelles sont ces bases indubitables? Laissez-moi, s'il vous plaît, reprendre le béaba. Louis XVI et Marie-Antoinette ont eu 3 enfants qui ont dépassé l'âge du berceau. L'aînée était une fille, évidemment, Madame Royale. Les cadets étaient donc 2 fils, Louis-Joseph et Louis-Charles. Le premier est dauphin de France, c'est naturel, c'est l'héritier du trône. C'est un enfant délicieux, intelligent, mais malheureusement atteint dès sa 3e année d'une maladie qui va se révéler tuberculeuse. Son enfance vire alors au calvaire. Le pauvre dauphin souffre en silence et il s'éteint finalement au tout début de la Révolution, au printemps 1789, en pleine réunion des États généraux. On comprend mieux, soit dit en passant, la mine bien triste du roi et de la reine en cette période par ailleurs cruciale de leur règne. En vérité, dans le privé, c'était un père et une mère qui venaient de perdre leur fils adoré. Et ils avaient toutes ces obligations, il fallait être là aux réunions des États généraux, etc. Vous voyez l'ambiance familiale. Reste donc le petit frère. À partir de 1789, c'est Louis-Charles, surnommé par sa mère Chou d'Amour, qui devient le dauphin de France, donc l'héritier du trône. Louis-Charles va suivre ses parents dans la tourmente révolutionnaire, aux Tuileries d'abord, puis au Temple, où ils partagent leur captivité à partir de l'été 1792. À ce moment-là, la monarchie est déchue en France au profit de la République. L'ancien roi Louis XVI, que les révolutionnaires appellent Louis Capet, est jugé, condamné à mort, il va être guillotiné le 21 janvier 1793. Et naturellement, à partir de ce moment, aux yeux de toutes les personnes fidèles à la monarchie, que ce soit en France ou ailleurs, le petit Charles, Louis Charles, il a donc 8 ans, devient le roi Louis XVII. Un petit roi captif que les révolutionnaires vont bientôt séparer de sa mère et de sa famille. Du reste, Marie-Antoinette est à son tour guillotinée en octobre 93. Puis c'est au tour de la tante, Madame Élisabeth, la plus jeune sœur de Louis XVI. Ne reste donc vivante à la prison du Temple que la grande sœur de l'enfant roi, Madame Royale. Elle sera échangée, vous le savez, contre des prisonniers politiques en 1795. Alors, Concentrons-nous sur le destin de Charles. L'enfant du temple, comme on l'appelle, est gardé par le cordonnier Simon et sa femme, qui essaient d'en faire un bon petit républicain, évidemment. Puis de janvier à juillet 94, donc là on est en pleine terreur, il est enfermé au secret dans une chambre obscure. Rappelez-vous le magnifique ouvrage de Françoise Chandernagor hein, sur ce sujet. Cet enfant malade, forcément, il va contracter la gale et la tuberculose. Après la chute de Robespierre, on va essayer de le traiter un peu mieux, en vain. Officiellement, Louis XVII meurt dans cette affreuse prison du Temple le 8 juin 1795, à l'âge donc de 10 ans. Voilà du moins pour ce qui est de la version officielle. Car après la Révolution, à plusieurs reprises, et notamment spécialement en 1846 et en 1894, on va exhumer le corps de cet enfant et l'on va constater que le squelette est non pas celui d'un enfant de 10 ans, mais d'un adolescent de 14 ou 15 ans. Ce squelette mesure 1,53 m, là il n'y a aucun doute là-dessus, et il présente des différences très notables avec ce que l'on savait de la morphologie du petit Louis XVII. Vous commencez à saisir le problème. Si le corps retrouvé est celui d'un adolescent et non pas celui d'un enfant, qu'est devenu le corps de Louis XVII? Ben là, il y a deux possibilités. Soit on a substitué les corps après la mort de l'enfant du temple, mais entre nous, on ne voit pas très bien pourquoi on aurait procédé à une telle opération. Soit il y a eu substitution des jeunes gens, et dans ce cas, le fils de Louis XVI et Marie-Antoinette aurait survécu à la prison du temple. On l'aurait exfiltré en quelque sorte et remplacé par quelqu'un d'autre. Ceux qui pensent que l'enfant roi a été discrètement évacué de sa prison et élevé ailleurs en secret, on les appelle, c'est l'habitude, on les appelle les survivantistes. Ce sont ceux qui croient à la survivance. Ils posent un problème à beaucoup de gens, ces survivantistes, à commencer par les partisans traditionnels de la monarchie, parce qu'il faudrait peut-être pas oublier qu'en 1814 et 1815, c'est-à-dire après la double chute de Napoléon, la monarchie a été restaurée en France. Et comme Louis XVII était officiellement réputé mort depuis 20 ans, c'est son oncle, le frère de Louis XVI, qui est monté sur le trône sous le nom de Louis XVIII. Il vaudrait mieux pour Louis XVIII, pour sa légitimité, que Louis XVII n'ait pas survécu quelque part en secret. Voyez la puissance de cette énigme, l'ampleur de la controverse soulevée. Alors je vous fais grâce de tous les soubresauts de cette affaire, de toutes les thèses, de toutes les révélations réelles ou supposées qui pendant plus d'un siècle ont fait couler énormément d'encre, ont fait imprimer des livres par centaines, je pourrais même dire par milliers. Sachez seulement qu'en l'an 2000, notre ami Philippe Delorme, que vous entendez régulièrement dans cette émission, a cru pouvoir annoncer que l'affaire était définitivement réglée. À l'origine, il y a une biographie de Louis XVII que Philippe avait publiée en 1995, au moment du bicentenaire de la mort supposée de Louis XVII au Temple. Pour le bicentenaire de l'affaire du Temple, il avait repris l'ensemble de l'affaire, si vous voulez. Et afin de mettre un terme à toutes les polémiques, l'historien a l'idée de recourir aux outils de la science moderne pour mettre tout le monde d'accord. Il sait que la basilique de Saint-Denis depuis 1975 abrite les restes d'un cœur censé avoir été prélevé le jour de l'autopsie sur l'enfant mort au temple par un certain docteur Pelletan. Pourquoi, se dit Philippe Delorme, ne pas comparer l'ADN du cœur conservé à Saint-Denis à celui des descendants de Marie-Antoinette ? Donc Philippe Delorme se met en rapport avec le professeur Cassiman de l'université de Louvain, vous verrez pourquoi tout à l'heure, et il lui demande si ce travail sur un cœur desséché lui paraîtrait possible. Le généticien ne s'avance pas trop, il faut d'abord qu'il examine la relique, mais surtout, il renvoie la balle dans le camp de l'historien. Ce n'est pas le tout d'examiner une relique, lui dit-il en substance, encore faut-il être certain de la provenance. C'est une remarque d'une grande justesse, et pour tout dire, c'est même toute la clé de l'affaire, et vous allez comprendre pourquoi. Dans toutes ces affaires où l'on fait parler l'ADN, elles sont de plus en plus fréquentes maintenant, le caractère incontestable de l'expérience scientifique a tendance à faire passer au second plan le matériel sur lequel on travaille. Seulement attention, dans le cas qui nous occupe, ce n'est pas le tout de savoir si le cœur examiné est ou non celui d'un garçon apparenté à Marie-Antoinette. La chose importante, c'est d'établir précisément d'où il vient ce cœur. Or, certains passionnés de l'affaire ont très vite émis les plus grandes réserves sur sa provenance et affirmé que cette relique, récupérée au moment de la Révolution de 1830 dans le bureau de l'archevêque de Paris, ne serait pas le cœur de l'enfant autopsié au temple en 1795, mais celui du premier dauphin, Louis-Joseph, celui qui donc était mort au moment des États généraux de 1789. Dans ce cas, vous admettrez que le mystère resterait entier. L'énigme Louis XVII resterait en suspens. Or, et c'est là que l'affaire devient réellement passionnante, il faut savoir que très tôt, l'opinion elle-même a douté de la mort de l'enfant du Temple. Toutes les hypothèses ont circulé à l'époque et dans les décennies qui ont suivi, on va voir surgir un peu partout quelques 110 personnages qui, apportant des arguments plus ou moins convaincants, le plus souvent pas convaincants du tout, vont prétendre être Louis XVII. Le plus célèbre de tous et de loin, le plus sérieux de ses prétendants, c'est un certain Charles Guillaume Naundorff, dont nous ont parlé un certain nombre des auteurs que j'ai plaisir à citer dans cette émission habituellement. Bien sûr, j'ai le nôtre, qui a été le premier et qui l'a fait d'une façon très marquante. Bien sûr, André Castelot et surtout, j'ai envie de dire, Alain Decaux. Et d'ailleurs, j'aimerais suivre un des nombreux récits consacrés par Alain Decaux à la vie de Naundorff pour essayer de vous retracer ce destin extraordinaire. C'est en 1810, dit-il, qu'apparaît pour la première fois le nom de Naundorff dans un document officiel. Un jeune homme paraissant 25 ans s'est établi à Berlin comme horloger. Il s'appelle Karl Wilhelm Naundorff et comme il ne possède pas la moindre autorisation d'exercer sa profession, il a été inquiété, mais grâce à la protection du conseiller Lecoq, on l'a laissé en paix, muni de toutes les autorisations nécessaires, nous dit Alain Decaux. En 1812, ce jeune homme quitte Berlin. Il est reçu bourgeois de Spandau. Alors à l'époque, il n'est pas marié, mais il a confié le soin de sa maison à une certaine Hanne Sonnenfeld, qui est sa gouvernante, si vous voulez. L'année de la mort de cette Hanne Sonnenfeld, on est en 1818, Naundorff fait la connaissance d'une jeune fille de 16 ans à peine, Jeanne Heinert, fille d'un fabricant de pipes de Havelberg, un homme qui était décédé. C'est le coup de foudre, réciproque semble-t-il, dit Alain Decaux, quand 2 semaines plus tard, le bel horloger, ainsi que l'appellent les dames de Spandau, demande la main de Jeanne, Madame Veuve Heinert s'affirme d'abord réticente. Que peut donner de bon un mariage aussi rapide? Mais finalement, Naundorff va la convaincre et il va pouvoir épouser sa petite Jeanne. Entre parenthèses, on se dit qu'il est très convaincant, ce Charles Guillaume Naundorff. Il aura, et vous verrez pendant toute sa vie, cette faculté de retourner les gens, de les convaincre. Il a sans doute une grande force de persuasion. Quelque temps avant le mariage, poursuit Alain Decaux, Naundorff avait dit à sa fiancée qu'il était orphelin, qu'il porterait toujours le deuil et qu'il désirait que la noce fût en noir. Alors, ils vont avoir des enfants, d'abord une petite fille, 2 ans plus tard un petit garçon qui s'appelle Charles-Édouard, un troisième enfant qui lui ne naît pas à Spandau mais à Brandebourg, où l'horloger et sa famille sont venus s'établir en janvier 1821. En mars 1824, le feu prend dans le théâtre de Brandebourg et Naundorff a la surprise de voir qu'il est considéré comme, on l'accuse en fait d'avoir mis le feu au théâtre. Il est conduit devant le tribunal de la Chambre royale de Berlin, mais il n'a pas de peine évidemment à établir son innocence. Par la suite, il sera arrêté pour utilisation de fausse monnaie. Je veux dire, à cette époque, ça n'avait rien de tellement rare, vous me direz. Il déclare se nommer Charles Guillaume Naundorff, être né à Weimar. Alors, les policiers font une enquête, ils écrivent à Weimar, mais on n'a aucune trace de Naundorff à Weimar. Et alors là, évidemment, l'interrogatoire se fait un peu plus musclé. D'ailleurs, on va lui donner 15 coups de fouet pour sa peine à ce Charles Guillaume. Et il finit par parler. Et voilà ce qu'il dit. Je m'appelle Louis Bourbon, je suis prince, natif de Paris, et je suis fils de... Je ne dois pas et ne veux pas nommer mon père. J'ai été élevé en Amérique, mais à cause des persécutions de mes ennemis, j'ai pris la fuite, je fus jeté à la côte française, bientôt pris après mon débarquement et tenu prisonnier dans une forteresse jusqu'en 1809. Une nuit, je fus réveillé par mon père nourricier et je vins en Allemagne. C'est de lui qui, pour passer le temps, s'occupait d'horlogerie que j'appris ce métier d'horloger. Alors, ce qui est assez étonnant, évidemment, c'est que il y a dans les propos de Naundorff, et on va en parler dans un instant avec Bruno Roy-Henri, il y a un petit peu à boire et à manger, si je puis dire. À l'époque, personne ne le croit. On pense que ce sont des mensonges. D'ailleurs, il va être jeté en prison, où il restera jusqu'au mois de mai 1828. Il est libéré le 5 mai 1828. Il va devoir quitter le Brandebourg, s'éloigner de Berlin. Il tente de s'installer d'abord à Gassen, en Silésie. C'est une période très dure pour la famille. On les voit constamment par Mons et par Vaux. Ils sont en pleine misère, les Naundorff. Il va finir par convaincre, Charles Guillaume va néanmoins finir par convaincre le syndic de la ville de Crossen, qui s'appelle Petzold, qui est également commissaire de justice. Et ce Petzold se passionne pour son cas et tellement bien qu'il finit par devenir un peu son avocat, si vous voulez. Il écrit aux différentes cours européennes pour expliquer son cas. Il écrit au roi Charles X en France, à la duchesse d'Angoulême, donc à celle qui était autrefois Madame Royale, qui est censée être sa sœur. Il parle de l'existence de ce Louis XVII. Entre parenthèses, maintenant, il est tellement sûr d'être Louis XVII que lorsque naît une petite fille en 1828, elle est prénommée Marie-Antoinette, et son petit frère, en 1831, sera baptisé Louis-Charles. Donc là, cette fois, ça y est, Naundorff assume pleinement ses origines. Petzold va écrire à Louis-Philippe, il adresse même une pétition aux chambres françaises, on est là à la fin de 1830, et puis il va faire paraître l'année suivante dans le Constitutionnel un petit entrefilet, une petite annonce si vous voulez, en disant voilà, j'ai le récit écrit de la main même de Louis XVII de son aventure, si ça vous intéresse écrivez-moi et je vous enverrai le fameux récit. Et il va recevoir effectivement une demande de la part d'un personnage qui arrive dans cette affaire, qui s'appelle François Albouy, qui est avocat à Cahors, qui a toujours été persuadé de la survivance de Louis XVII. Albouy envoie même à Petzold de l'argent pour le faire, pour le voyage, mais seulement Petzold entre-temps est mort. Dans les derniers jours du mois de juillet 1832, écrit Alain Decaux, abandonnant sa femme et ses enfants, Charles Guillaume quittait Crossen avec 4 écus en poche et pour tout équipage les vêtements qu'il portait sur lui, un bâton et une gibecière dans laquelle il avait rangé quelques linges de corps. Il se mettait en route pour la France. On a vu comment et dans quel état, 10 mois plus tard, le 26 mai 1833, il était arrivé à Paris, comment aussi, averti par son beau-frère, Caroline Albouy l'avait découvert et l'avait conduit chez elle. Il y a peu de circonstances aussi ahurissantes dans l'histoire que celle-ci, écrit Alain Decaux. Un vagabond, déguenillé, sans un sou, ne connaissant personne, bredouillant à peine quelques mots de français, arrivant dans la capitale de ses ancêtres, selon ses propres mots, pour réclamer sinon un trône, du moins l'état de prince français le plus extraordinaire, et qu'il se trouvera quelques mois plus tard à 2 doigts de la réussite. Et oui, car à mesure qu'il raconte son aventure et qu'il rencontre des témoins de l'ancienne cour, Charles Guillaume les convainc, il va convaincre un grand nombre de personnes, malgré leur foi et leur enthousiasme, écrit notre historien. Les plus acharnés des partisans parisiens de Naundorff voudraient bien tenir dans leurs mains des preuves palpables. Ils osent insister, des preuves écrites. Le prétendant fait traîner les choses le plus possible, mis au pied du mur. Il déclare que toutes ses preuves sont à Crossen, dans un tiroir secret de son secrétaire. Et quelles preuves? Une lettre de Louis XVIII, une lettre du duc de Berry à lui adresser en 1820, etc., etc. Alors la petite cour de la rue de Bussy, puisque c'est là que ça se passe chez les Albouy, va se cotiser pour envoyer quelqu'un sur place, sauf que on voit bien le secrétaire, mais qu'il n'y a pas de lettre du tout dans le secrétaire. La duchesse de Montmorency va finir par s'adresser elle-même à Madame Royale. Elle lui écrit à Prague, Madame Royale à l'époque, enfin la duchesse d'Angoulême, accompagne son beau-père et non néanmoins oncle, le roi Charles X, qui est en exil donc à Prague. Et Madame Royale écrit ceci en réponse à la duchesse de Montmorency. « On doit penser combien je serais heureuse de retrouver mon frère, mais je le crois malheureusement mort. Je pourrais même ajouter qu'il est mort, pour ainsi dire sous mes yeux, du moins l'enfant qui habitait sous ma chambre au temple et que je savais être mon frère est mort là, à moins qu'il n'y ait eu une substitution, ce que j'ignore. » Et d'ailleurs, ça c'est très intéressant, la duchesse d'Angoulême jusqu'à sa mort va jouer, si je puis dire, sur les deux tableaux. Et on ne saura jamais véritablement quelle est sa conviction sur le sujet. Quant à Naundorff, eh bien, il a beau multiplier les démonstrations, il a beau même lancer des procès, pour l'instant, il n'arrive pas à se faire reconnaître comme le fils légitime de Louis XVI et de Marie-Antoinette.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de l'énigme qui entoure Louis XVII.
Alors ce Charles-Guillaume Naundorff, donc, qui prétendait, qui affirmait, dur comme fer, être Louis XVII, va trouver beaucoup d'oreilles attentives et bienveillantes, notamment celle de Guillaume III de Hollande, qui finira par lui donner l'autorisation de s'appeler de Bourbon. Et c'est d'ailleurs en Hollande, hein, c'est à Delft que va mourir Charles-Guillaume Naundorff, où il était, donc Charles-Guillaume, il s'appelle maintenant de Bourbon. Toute la ville suivit le cortège funèbre, nous dit Alain Decaux, pour montrer quelle était devenue la popularité de Charles-Guillaume au moment de sa mort. Il est mort le 10 août 1845. Par autorisation du ministère de la Justice, l'acte de décès porta qu'était décédé Charles-Louis de Bourbon, duc de Normandie, Louis XVII, né au château de Versailles en France le 27 mars 1785. Et avec une nouvelle autorisation du gouvernement néerlandais, la famille du prétendant fit graver sur la pierre tombale cette inscription. Ici repose Louis XVII, Charles-Louis, duc de Normandie, roi de France et de Navarre, né à Versailles le 27 mars 1785 et décédé à Delft le 10 août 1845. Alors vous imaginez bien que pendant toutes les décennies qui vont suivre, les historiens ne vont pas se faire faute d'essayer, à partir des restes de Charles-Guillaume, d'en savoir davantage, d'analyser, d'essayer de faire parler en quelque sorte les restes. Et en 1999, c'est donc très récent, le professeur Cassiman, voilà sa première apparition dans cette affaire, si je puis dire, a comparé de l'ADN contenu dans un os de Charles-Guillaume Naundorff à l'ADN mitochondrial, donc spécifique de la lignée féminine, prélevé sur Anne de Roumanie qui descendait de Marie-Antoinette par les Habsbourg. À l'époque, cette étude a exclu toute parenté maternelle de Naundorff avec les Habsbourg, ce qui voulait dire qu'il n'aurait pas pu être Louis XVII. Il y a une quinzaine d'années, donc, ces études ADN, qui avaient été commandées par les Bourbons, disons-le, avaient conclu à l'imposture de Charles-Guillaume Naundorff. Ça a été un coup très dur pour le descendant de Charles-Guillaume, qui s'appelait à l'époque Charles de Bourbon. Il continuait à porter ce nom, qui avait été confirmé par un jugement en France, jugement de 1913. Ce monsieur était déjà septuagénaire au moment des analyses ADN, et il a crié au coup monté. Il est mort en décembre 2008, absolument convaincu évidemment d'être le descendant direct de Louis XVI. Son fils s'appelle Hugues de Bourbon, il est né en 1974, il est libraire, et nous dit le Figaro, il a soumis ses gènes au microscope du professeur Lucotte. Et voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. C'est le véritable scoop historique, n'est-ce pas ? Je cite l'article de Delphine de Malvoux. Les prélèvements sur le jeune Hugues ont eu lieu à La Rochelle il y a 2 ans. L'étude a porté sur les marqueurs du chromosome Y spécifique de la lignée masculine. Cette fois, l'analyse du chromosome Y du descendant Naundorff a été comparée avec l'haplotype des Bourbons grâce à un profil du chromosome Y de la Maison Royale établi en octobre dernier par le professeur Cassiman. Résultat, on retrouve chez lui l'essentiel des marqueurs du chromosome Y des Bourbons. Il fait partie de la famille, conclut le professeur Lucotte. Alors, j'ai moi-même eu hier au téléphone le professeur Lucotte qui insiste bien sur ce point. Les analyses démontrent que ce monsieur descendant de Charles-Guillaume Naundorff, et qui s'appelle donc Hugues de Bourbon, appartient génétiquement à la famille des Bourbons. Reste à démontrer que Charles-Guillaume Naundorff était bien Louis XVII. Ça, c'est une autre affaire. On va y dans un instant. Vous avouerez que d'ores et déjà la découverte est de taille et je sens que Bruno Roy-Henri, qui est juste là à côté de moi, meurt d'impatience de souligner toutes les conséquences de cette affaire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Vous nous parlez dans Cœur de l'Histoire cet après-midi de cette affaire Louis XVII, Franck Ferrand, avec votre invité Bruno Roy-Henri, auteur d'ouvrages historiques, notamment Vidocq, du bagne à la préfecture aux éditions L'Archipel.
Bonjour Bruno Roy-Henri.
Bonjour.
Habituellement, quand nous voyons à ce micro, c'est pour parler de l'affaire du tombeau des Invalides. Et bien aujourd'hui, nous parlons de Louis XVII, car vous êtes à l'origine de la rencontre entre le professeur Lucotte et ce monsieur qui s'appelle donc Hugues de Bourbon et qui descend directement de Charles-Guillaume Naundorff. C'est chez vous que ça a eu lieu, cette rencontre.
En effet, à La Rochelle, Tout à fait. Le 10 août d'ailleurs 2011, une date jour éminemment symbolique. Oui.
Jour anniversaire de la mort de Charles
Et aussi de la chute de la monarchie en 1792.
Alors, il faut dire que depuis la mort de Charles Guillaume d'Hohendorff, ses descendants continuent de défendre, hein, bien entendu, tout ce qu'il avait annoncé, toute cette filiation directe avec le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette. Il y a eu, avant Hugues, il y a eu un monsieur qui s'appelait Charles-Louis-Edmond de Bourbon, qu'on a beaucoup vu dans les médias, hein, oui. puisqu'il était très présent. Il était un ardent défenseur de son ancêtre et de ses droits, si je puis dire. Il était d'ailleurs, il avait une vraie ressemblance avec Henri IV, lui.
Absolument, il était convaincu de sa filiation royale, absolument.
Et c'est donc son fils qui est né en 1974, Hugues de Bourbon, que vous connaissez, et vous l'avez présenté au professeur Lucotte, afin que le professeur Lucotte puisse établir une analyse génétique, c'est bien cela?
C'est ça, tout à fait. Hugues de Bourbon a souhaité accomplir une démarche de vérité. Cette question le taraude depuis quelques années, bien entendu. Et pour l'honneur de sa famille, il estime qu'il doit aller jusqu'au bout. Pour
savoir si oui ou non.
Voilà, voilà, exactement.
Alors, oui ou non, mais si j'ose dire, la science avait déjà répondu non, puisqu'en 1999...
Alors c'était très ambigu.
Alors voilà, c'est ça.
C'était très ambigu.
En 1999, je rappelle en deux mots, le professeur Cassiman va donc comparer de l'ADN qui provient d'un os de Charles-Guillaume d'Hohendorff. Il compare cet ADN...
Sorti d'un bocal non scellé. Alors oui. Déjà, la traçabilité était douteuse. Mm-hmm. Mais il y a encore d'autres éléments qui font douter encore plus de cette analyse.
Alors, c'est une analyse qui procède par étude de l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire par les femmes.
Absolument.
Et en l'occurrence, il s'agissait donc de voir si Charles Guillaume descendait des Habsbourg par sa grand-mère Marie-Antoinette, en quelque
c'est
sorte.
C'est ça, hein. C'est ça, exactement.
Par sa mère, pardon, pas par sa grand-mère, par sa mère.
Oui, mais enfin, c'est le même. Hein, c'est Marie-Thérèse, Marie-Antoinette, c'est toujours... l'ADN mitochondrial se transmet bien entendu par les femmes. Donc il fallait comparer éventuellement l'ADN mitochondrial qu'on trouverait dans cette os de Hohendorff, mais à condition d'être absolument certain que c'était bien l'os de Hohendorff. Or, il y a eu quand même un léger problème, en ce sens que le professeur Cassiman, qui avait fait des prélèvements sanguins sur les descendants vivants de Hohendorff, et qui avait fait également établi un profil du chromosome Y sur l'os de Hohendorff, a constaté que les deux profils du chromosome Y, qui était pas aussi précis que ceux d'aujourd'hui, naturellement, mais qui était déjà esquissé, n'était pas semblable. Il n'était pas semblable. Et donc, on pouvait mettre en doute, si vous voulez, la filiation entre Hohendorff et ses descendants actuels. Manifestement, il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que là, le professeur Cassiman aurait dû quand même tenir compte de cet argument, enfin de cette observation, parce que...
c'est un argument qu'on peut retourner.
Il y a un doute sur l'origine de cet os de Hohendorff, prétendu de Hohendorff, qui est resté 46 ans dans un bocal non scellé, avant d'être analysé.
Au lieu de remettre en cause la descendance de Hohendorff, on aurait pu remettre en cause l'os lui-même. Néanmoins, et c'est ça le problème, et moi je le dis très souvent, je vais le répéter une fois de plus, mais je suis toujours très réticent à l'égard de ces analyses ADN, parce que la force de la science est telle qu'à partir du moment où il y a un communiqué de presse et où on annonce aux journalistes que l'ADN a parlé, on a l'impression que c'est une espèce de vérité définitive. On ne se soucie précisément pas de savoir à partir de quelle relique ou de quel échantillon on a travaillé.
Oui, c'est pourquoi il y a un énorme travail à faire de la part de l'historien, justement, en amont de l'analyse, bien entendu.
Alors, donc, en 99, on nous a dit, ben non, vous voyez, finalement, Hohendorff était un imposteur, je me rappelle ça. J'ai lu, moi, à l'époque, je ne sais combien d'articles là-dessus, et j'étais d'ailleurs assez stupéfait.
Oui, moi-même, j'avais été ébranlé, je ne dois pas le cacher.
Bon. Alors, le temps passant, vous vous êtes dit, il faut quand même en avoir le cœur net, et au lieu de travailler sur des reliques, on va travailler sur, carrément, sur des échantillons vivants, si je puis dire.
L'ADN vivant, bien sûr, c'est plus facile, naturellement.
Alors là, vous avez contacté le professeur Lucotte, qui s'est révélé intéressé.
Au départ, il fallait convaincre Hugues de Bourbon lui-même, si vous voulez. Donc j'ai pu le contacter, le rencontrer et lui proposer les services du professeur Lucotte, qui avait quand même un gros avantage, c'est d'avoir réussi dans la découverte de l'ADN de Napoléon Ier, d'une part, et même encore ensuite, il n'y a pas très longtemps, sur l'ADN de Napoléon III. Donc, le professeur Licotte avait un grand intérêt à nos yeux, c'est que c'est un chercheur qui trouve. Et vous savez que parfois on en manque un peu en France aussi, dit-on.
Alors j'ai eu, moi donc, je le disais tout à l'heure, le professeur Licotte au téléphone hier soir, et alors il me dit, attention que ce soit bien clair. Moi ce que je peux dire à partir de mon analyse, c'est que Hugues de Bourbon appartient génétiquement à la famille des Bourbons. Entre parenthèses, c'est quand même une véritable révolution.
Absolument, hein. Absolument.
C'est un pavé considérable dans la mare, surtout lorsqu'on voit ce que la justice, à la demande d'un prince de Bourbon-Parme, il n'y a pas très longtemps, avait d'ailleurs jugé. Hein. C'est-à-dire que les Bourbon-Nonndorf n'avait pas le droit de se réclamer de la maison de Bourbon. Or là, nous dit le professeur Licotte, ils sont bien des Bourbons. Mais, me précise-t-il au téléphone, et il tenait à ce que je le dise bien, parce que c'est vrai que de ce point de vue, les travaux sont en cours, pour savoir si Charles Guillaume est bel et bien Louis XVII, il va falloir établir son ADN complet. Et ça, c'est l'objet d'une étude que mène actuellement le professeur Licotte à partir de cheveux prélevés sur Nonndorf. Et
évidemment,
on aura le résultat de cette recherche très prochainement. Il me dit probablement avant l'été. Donc là, on sera carrément fixé.
Oui, des cheveux, je lui ai fait passer par l'intermédiaire de monsieur Christian Crépin, qui les a gracieusement remis à la disposition du professeur pour une analyse complète. Autant qu'on puisse aller jusqu'au bout, effectivement. Et ça,
alors
c'est
ça,
les tests en cours qui nous le diront.
Ce sont bien des cheveux authentiques de Charles-Guillaume Nonndorf.
Alors, là aussi, il y a un travail à faire au niveau de la génétique, par rapport à ce qui a été fait aussi dans le passé, parce que vous savez qu'on a eu les fameux travaux du professeur Locard, qui ont été très contestés, mais qui quand même avaient établi un certain nombre de choses.
Alors, il faut dire un mot de ces travaux qui avaient été menés à la demande d'André Castelot, à l'époque, par le professeur Locard.
En 1943, hein, au départ, oui. Ça, oui. Voilà, oui.
Alors, on avait pris des cheveux donc de Charles Guillaume Nonndorf.
Exactement. On avait voulu les comparer avec Louis XVII en ayant recours à cette science qu'on appelle la trichoscopie, qui est l'examen microscopique des mèches de cheveux. Et comparant des cheveux de Louis XVII et de Nonndorf, le professeur Locard avait à l'époque mis en évidence une excentration du canal médulaire. Et considérant que c'était un signe extrêmement puissant au niveau de la définition de l'individu, il en avait conclu à l'identité des deux mèches et par conséquent à l'identité entre Nonndorf et Louis XVII.
Mais ce qu'il faut dire, c'est que sur cette première expertise est venue se greffer une deuxième, une contre-expertise, puis une contre-contre-expertise.
Voilà. Enfin, oui, parce que Nonndorf a été exhumé en 1950 pour un certain nombre de raisons, parce que
il
fallait refaire la
oui.
tombe aussi, notamment, on en a profité, et par conséquent, on a récupéré des cheveux de Nonndorf pour les analyser à nouveau entre les mains du professeur Locard. Alors là, est-ce que vraiment ce sont les cheveux de Nonndorf qui ont été analysés? Moi, j'en doute fortement parce que dans le rapport, Locard décrit des cheveux qui étaient bruns et on sait que les cheveux de Nonndorf n'étaient pas du tout bruns, il était d'un blond cendré. Alors dans la tombe, on a dit roussâtre, d'une couleur roussâtre. Et là, surprise, il n'y avait plus l'excentration du canal médulaire et par conséquent, Locard en avait conclu qu'il s'était trompé. Il y a eu quand même des manœuvres bizarres autour de toute cette affaire.
Vous avouerez quand même que tous ces rebondissements qui n'arrêtent pas depuis des décennies maintenant finissent par rendre les plus grands amateurs d'énigmes historiques, je pense vraiment faire partie de cette catégorie, vous avouerez que ça finit par devenir un peu déconcertant. On a envie de dire on ne sait plus à quel sens vouer avec toutes ces analyses, ces contre-analyses, ces expertises, ces contre-expertises. L'avantage
comme ça depuis le début, cher Franck Ferrand, vous savez.
L'avantage de ce que vous nous proposez là, avec les travaux du professeur Licotte, c'est qu'on travaille sur de la matière vivante, encore une fois,
et non pas sur des
restes. En revanche, les travaux qui sont en cours et dont on aura le résultat avant l'été prochain, ces travaux-là sont effectués à partir de cheveux provenant ou censés provenir de Charles Guillaume Nonndorf. Et donc, à partir de là, on rentrera de nouveau dans les polémiques et dans les controverses historiques, probablement.
Espérant que les travaux aboutissent, car ce n'est pas absolument garanti.
Alors,
Je fais confiance au talent du professeur Licotte, naturellement, mais lui-même n'exclut pas une impossibilité.
Évidemment, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent, là, qui disent, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, finalement, de savoir si ce Nonndorf était bel et bien le fils survivant de Louis XVI et Marie-Antoinette. Alors, la première réponse que j'ai envie de leur faire, c'est que la vérité historique est toujours passionnante. C'est quand même intéressant de savoir si oui ou non cet enfant a échappé à la prison du temple, a été exfiltré ou s'il est mort de mauvais traitements
bien
à l'intérieur de la prison.
Sûr.
Et puis, deuxièmement, il y a, qu'on le veuille ou non, en tout cas pour la frange monarchiste ou légitimiste, il y a une question de légitimité de la lignée royale. Alors là, c'est très intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui,
oui,
Hugues de Bourbon, puisque vous le connaissez bien, est-ce qu'il revendique quelque chose? Est-ce qu'il est prétendant au trône de France?
Alors à ce sujet, je crois qu'il conviendrait qu'il le laissait s'exprimer, parce que c'est ce qu'il fera d'ailleurs d'ici quelques jours, je crois. Je peux simplement dire qu'il n'est pas tout à fait dans les mêmes sentiments que son père. Pour avoir connu les deux, sur ce plan-là, il est beaucoup plus prudent en tout cas. Et par ailleurs, quand vous parliez des monarchistes et des royalistes, effectivement, ça pourrait avoir une incidence, puisque finalement, il n'y aurait plus, à ce moment-là, si Nondorf était reconnu comme Louis XVII, il n'y aurait plus de prétention ni orléaniste, ni des Blancs d'Espagne.
Ah oui, puisque là, il y aurait un vrai...
Voilà, je pense qu'il se
rallierait. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, Bruno Roy-Henri, et je clorerai là-dessus, après on va revenir sur la vie elle-même de Nondorf, qui est un personnage fascinant en tant que tel, ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'il y a, au sein même de la famille Nondorf, des dissensions, et il y a une branche canadienne qui conteste à la branche de Hugues de Bourbon sa légitimité. Donc à l'intérieur même des Nondorf, il y a des problèmes de légitimité.
Oui, dans chaque famille, il y a toujours des problèmes, des dissensions, au niveau des intérêts et des héritages, effectivement.
C'est d'une complexité folle, cette affaire.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi de l'affaire Louis XVII, Franck Ferrand, avec votre invité, Bruno Roy-Henri.
La musique est tout à fait d'ambiance.
Tout à fait. Bruno Roy-Henri, qui est votre invité, auteur d'ouvrages historiques, Napoléon, l'énigme de l'exhumé de Sainte-Hélène, ou encore Vidocq, du bagne à la préfecture, aux éditions L'Archipel.
Et en ce moment même, Bruno Roy-Henri est en train de travailler d'arrache-pied à un ouvrage qui fera le point, justement, sur toute cette affaire. On était en train d'en dire un mot à l'instant. Pour l'instant, on n'en dit pas plus, puisque vous êtes en plein travail, Bruno Roy-Henri. Alors, je pense qu'on va clore l'affaire pour le moment. On attend, bien entendu, avec grande impatience, le résultat des travaux du professeur Lucotte sur cette mèche de cheveux de Charles Guillaume Naundorff. On va voir là, comme on aura l'ADN complet... on peut l'espérer, parce que je crois qu'il y a des bulbes sur certains des cheveux.
Sur les cheveux, il y a souvent des bulbes. Oui. Il faut
là,
les trouver, bien entendu.
En l'occurrence, il y en a, m'a dit le professeur Lucotte, il y en a de ces bulbes. Donc, il va pouvoir travailler sur cet ADN. On aura un ADN complet, et là, on saura si oui ou non...
Normalement, on devrait le savoir, ouais, absolument. Déjà, pour moi, il y a quand même des éléments très favorables en faveur de Nondorff, naturellement, ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait un dossier quand même relativement solide.
Alors, c'est ça.
Contrairement à ce qu'Alain Decaux, après, avait voulu plaider.
Alors ça, c'est la grande question. C'est que justement, la science est en train de travailler. J'ai envie de dire, laissons-la travailler. Éventuellement, d'ailleurs, j'inviterai le professeur Lucotte en temps utile pour qu'il vienne nous raconter tout ça. Mais les historiens, eux, n'ont pas attendu la science pour creuser le dossier Nondorff. Et ce personnage, je l'ai dit, a fait l'objet d'un très très grand nombre d'ouvrages. Il y en avait 1700 recensés au tournant du siècle.
Donc c'est complètement fou. Nondorff au 17, absolument.
Ouais, c'est incroyable. Bien sûr, Alain Decaux en avait fait l'un de ses grands sujets. Il a fait énormément d'émissions là-dessus.
Ça a été le départ de sa carrière, d'ailleurs.
Et oui,
en 1947.
Puisque c'est comme ça qu'il a rencontré André Castellon.
D'abord en rencontrant André Castelot et ensuite en écrivant un ouvrage fort bien écrit d'ailleurs sur Nondorff, roi de France, Louis XVII retrouvé, et qui avait été d'ailleurs distingué par l'Académie française à l'époque. Tout jeune auteur, tout jeune écrivain, Alain Decaux avait commencé sa carrière sur cette affaire Louis XVII.
Ce qui s'appelle, pour un coup d'essai, commencer par un coup de maître.
Quasiment.
Et alors, c'est vrai que par la suite, Alain Decaux a pris de grandes distances par rapport au sujet. Il dit d'ailleurs dans l'article dont j'ai tout à l'heure cité des extraits, qu'on parle souvent des serments d'ivrogne, mais qu'il faudrait aussi parler des serments d'historien lorsqu'ils s'appliquent à Louis XVII, car moi-même, dit-il, j'avais fait serment absolu de ne plus m'intéresser à cette affaire, et voilà que j'y reviens. et qu'on y revient sans cesse. Alors, ce personnage, ce Charles-Guillaume d'Andorff, est-ce qu'on peut admettre, Bruno Roy-Henri, qu'il n'est pas tout d'une pièce? Il est quand même bien complexe à comprendre.
C'est vrai. C'est vrai. Bon, si vous voulez, plaide pour lui un certain nombre de reconnaissances, une cinquantaine de témoignages des personnes qui avaient vécu à la cour de Versailles, naturellement. Et pas des moindres, hein, vous aviez monsieur de Joly, qui était le dernier garde des Sceaux de Louis XVI, monsieur Brémond, qui avait été son secrétaire et ensuite le secrétaire aussi du dernier ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, Thérier de Montciel. Donc des personnages éminents qui avaient touché à la politique, aux affaires de l'État.
Et qui disaient c'est lui.
Et mis en présence de Andorff, pas forcément tout de suite, mais après l'avoir écouté, après l'avoir étudié, après avoir échangé un certain nombre de souvenirs, on a à cet égard une anecdote extraordinaire entre monsieur de Joly et puis Nondorf. Nondorf lui rappelle les moments qui s'étaient passés dans la loge du logographe, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale où s'était réfugiée la famille royale. À ce moment-là, à un moment donné, le petit Louis XVII s'était retrouvé sur les genoux de sa maman et en présence du ministre. Celui-ci avait voulu goûter les plats pour éviter un empoisonnement et le jeune dauphin lui avait dit « Assez, ça suffit, ministre, donne-nous à manger ». Alors déjà, monsieur Joly avait été surpris que Nondorff puisse évoquer ce souvenir et en plus Nondorff ajoute « Et puis il y avait ces barreaux qui me faisaient peur ». Et Joly réplique « Mais pas du tout, c'est faux. Ces barreaux, je les ai fait ôter immédiatement lorsque la famille est arrivée dans la loge en question, nous les avons retirés. » Non, je me souviens, la nuit, j'en avais fait des cauchemars. Et finalement, monsieur de Joly revient chez lui où il avait un certain nombre de documents à sa disposition, notamment ce qu'il avait écrit à l'époque dans son journal, et il constate qu'en réalité, contrairement à ce qu'il pensait, c'était bien Nondorff qui avait raison. Et à partir de là, il dit, oui, effectivement, c'est bien Louis XVII.
Mais des anecdotes comme ça, il y en a une quantité.
Il y en a plusieurs.
Par exemple,
en effet, oui.
Une dame de la cour lui parle d'une petite redingote qu'il refusait de porter.
Madame de Rambeau, la fameuse Agathe de Rambeau, c'est ça, oui, tout à fait.
Et il lui dit, mais non, pas du tout, ça n'était pas à Paris, ça, c'était pas aux Tuileries, c'était à Versailles.
C'était à Versailles, exactement.
Et même chose, elle vérifie et elle constate que c'était la vérité.
Et c'est là qu'elle reconnaît immédiatement Nondorff comme étant Louis XVII.
Il y a même un voyant très célèbre de l'époque, hein, Martin, qui l'avait reconnu.
Oui, alors ça c'est autre chose, parce que Martin c'était vraiment tombé dans les illuminés.
Oui.
Et puis là c'était le prophète qui dit effectivement Nondorff est bien Louis XVII, mais il ne l'avait jamais eu avant.
Mais alors pourquoi est-ce qu'il a menti sur certains aspects? Il ment sur, évidemment,
alors,
sur
c'est
les papiers.
Voilà, mais c'est là où les historiens ont leur mot à dire quand même, je pense.
Oui.
Parce qu'effectivement, comme vous le dites, par exemple, Sosthène de La Rochefoucauld, qui avait fait une enquête à la demande de la duchesse d'Angoulême sur Nondorff, avait dit « Il vaut mieux voir cet homme et l'écouter que de le lire. » Pourquoi ? Parce que les écrits de Nondorff n'ont absolument ni queue ni tête, en général, c'est vrai. Notamment les derniers, l'abrégé des infortunes du dauphin, publié en 1836, c'est une suite d'invraisemblances. On ne voit pas trop ce qui veut se cacher derrière tout ça. Ce qu'on comprend en réalité, si vous voulez, c'est que l'entourage de Nondorff a voulu faire coller la réalité historique qu'on pensait établie avec ce qui avait pu se passer, alors que très certainement, et j'en suis persuadé, ça ne s'est pas déroulé comme on l'a pensé. Et moi, personnellement, sur un plan historique, je suis absolument certain qu'en réalité, la séparation...
Convaincu, en tout cas.
Oui, convaincu, et par d'ailleurs les travaux d'un érudit décédé aujourd'hui, Michel Jabouline, qui a développé une thèse très intéressante, et ce qui explique en réalité, le dauphin, quand il a été retiré de sa famille le 3 juillet 1793,
à ce moment-là,
mais dès ce moment-là, il est retiré du temple et on met à sa place un enfant qui lui ressemble, un enfant blond, qui sera élevé par Simon et sa femme. D'ailleurs, évidemment, vous le savez, ce qui pose question à ce moment-là, c'est les signatures, quand il y a les fameuses confrontations à l'instigation de Hébert et Chaumette, entre le prétendu dauphin, sa sœur et sa tante. Il va signer des déclarations épouvantables, mettant en accusation sa mère, sa tante et sa sœur. Et le fameux Capet, Charles Capet, qui signe, à l'évidence, en tout cas pour une grande partie des graphologues, à l'évidence, ce n'est pas la signature du dauphin Louis de France. On peut peut-être estimer que c'est celle de Charles Capet, mais Charles Capet, alors, est un imposteur.
Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est si on l'a remplacé dès cette époque, le petit dauphin par un autre. On ne sait pas d'où viendrait cet enfant d'ailleurs alors. Hein. Mais comment expliquer qu'on le traite aussi mal ensuite pendant toute la période de la Terreur? Il est abandonné à lui-même dans cette espèce
mais oui,
de...
Mais vous voyez bien aussi que ça ne tient pas cette histoire d'un dauphin qui est quand même qui est un otage extraordinaire parce que c'est une garantie pour les républicains. Voilà que le 19 janvier 1794, on va le mettre à l'isolement, on va construire un poêle avec un espèce d'enfermement total, et puis les municipaux se passent tous les soirs pour demander, pour vérifier s'il est toujours en vie. C'est la fameuse anecdote, Capet dort-tu? Et la réponse, paraît-il, du pauvre déchet qui est là, Capet, race de vipère. Tout ça, à mon avis, ne tient plus la route aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment, on est dans la fantasmagorie.
En tout cas, ce qui m'intéresse et ce qui m'amuse, si j'ose dire, Bruno Roy-Henry, c'est que, bon, en attendant les résultats des travaux du professeur Louis Cotte, déjà, d'ores et déjà, on peut dire que l'énigme Louis XVII est repartie.
Elle est en voie de résolution. Hein,
l'affaire est relancée. Et rien que ça, c'est assez satisfaisant parce que je trouvais qu'on l'avait quand même enterré un peu vite. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de certains de vos ouvrages. Bien sûr, Napoléon, l'énigme de l'exhumé de Sainte-Hélène, dont on a beaucoup parlé ensemble déjà.
Et dont on
Vidocq, du bagne à la préfecture. Et puis, on attend bien sûr vos travaux, vos propres travaux sur Louis XVII.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondez Franck Ferrand à la question de Marie sur les origines de la guillotine.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Marie. Elle nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1 et elle souhaiterait connaître l'origine de la guillotine.
Alors ça tombe bien puisqu'il y a quelques jours, c'était le 26 mars dernier, on a célébré le bicentenaire de la mort de Guillotin, hein, le 26 mars 1814. Guillotin qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire étant donné son nom, n'est pas l'inventeur de la guillotine. Hein, on se trompe là-dessus. Il est le député, lui il était député à la Convention, il est le député qui a fait admettre par ses confrères, l'idée que la loi serait égale pour tous et que tout condamné à mort aurait la tête tranchée. Vous savez que c'était à l'époque une sorte de... C'était une avancée, si l'on peut dire, puisque pendant très longtemps on ne tuait pas de la même façon le peuple et la noblesse. Vous savez que les aristocrates étaient décapités, décollés, comme on disait, alors que les autres personnes étaient simplement pendues ou rouées, etc. Et donc là, l'idée, c'est de décapiter tout le monde et de le faire d'une manière... mécanique. C'est le chirurgien Antoine Louis qui va mettre au point la fameuse machine. Alors avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil et vous ne souffrez point, disait Guillotin. Et il aurait été bien marri, je pense, le pauvre Guillotin, d'imaginer qu'il laisserait son nom à cette affreuse machine. Enfin, néanmoins, c'est grâce à lui que on a établi cette sorte d'égalité entre les condamnés à mort. Hein. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. C'est un article du Code pénal qui est voté en octobre 1791. Alors, des machines de ce genre, il en existait depuis très longtemps, au moins depuis le XVIe siècle. On parle notamment en 1507 d'une certaine Manaïa qui avait permis de décapiter quelqu'un qui avait participé à une révolte contre le roi Louis XII. Ailleurs, en Europe, en Allemagne et surtout en Écosse, il y avait des machines de ce genre. En Écosse, on les appelait les maiden, les jeunes filles, et elles auraient servi à des exécutions dès le milieu du XVIe siècle. Donc ce n'est pas une invention française, même si la France, malheureusement, a presque été associée à cette invention terrible. Et d'autre part, ce n'est pas une invention du docteur Guillotin. Voilà pour répondre à la question de Marie.